voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kenéen rencontre Bertrand Delanoë. Ce soir, Paris.
Bertrand Delanoë, lors de notre dernier entretien, nous vous avons laissé baron du Parti Socialiste.
Baron, non.
Vous avez dit.
Jamais été un baron.
J'ai été un apparatchik.
Oui aussi, oui, oui. Mais c'est pas un baron, ça. C'est-à-dire, pendant quelques années, oui, j'ai fait du travail d'appareil.
Apparatchik atypique.
C'est peut-être pour ça aussi que j'en suis sorti.
Et pourtant, le Nouvel Observateur a pu écrire au tournant des années 2000, Delanoë, l'un des barons les plus compliqués. Et moi, j'aime bien l'idée que, là où nous en étions de nos conversations, vous étiez un apparatchik en fuite. Vous avez tenté l'aventure dans le privé, ce que beaucoup de femmes et d'hommes politiques n'osent pas.
Les gens venaient du privé. C'est-à-dire, avant d'avoir été un élu ou un collaborateur de Mitterrand et de Jospin, j'étais cadre du privé. Donc c'est une sorte de retour aux sources, même si c'est d'une autre manière.
Alors il y a ce retour aux sources et il y a le retour à la politique. En 1993, vous êtes peut-être le dernier recours. En tout cas, François Mitterrand, dit-on, vous dit « il faut revenir ». Et vous vous retrouvez président du groupe PS au Conseil de Paris, à la tête d'une escouade complètement décimée. 16 élus PS sur 163, vous nous décririez ce chantier, peut-être ce champ de ruines dans lequel vous devez intervenir.
D'abord, François Mitterrand, à ce moment-là, n'y est pour rien. Parce que François Mitterrand, quand il a cherché à me faire revenir, c'est plutôt en 88. Vous voulez que je sois à nouveau candidat aux législatives, etc. Bon. Non, en 93, c'est tout seul. On est détruit, mais vraiment détruit, par la défaite de 1993, législative, qui est aussi une défaite morale. Parce qu'il y a les affaires, il y a tout ça. Et puis, il y a le suicide de Bierégovoy, qui était mon ami, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Et c'est vrai qu'au Conseil de Paris, on se retrouve à 16 sur 163, avec le grand Chirac qui domine. Et à ce moment-là, notre président de groupe, Georges Sarr, quitte le PS. Et nous, les 16, là, plusieurs amis me disent, écoute, tu veux pas prendre le leadership, parce que vraiment, on est tout nus, quoi. Bon, je dis pourquoi pas. Parce que ça, c'est pas revenir à la politique classique, ni même professionnelle, puisque je garde mes entreprises, je continue mes activités, et comme c'est municipal, c'est Paris, et que j'ai besoin d'engagement, à ce moment-là, la défaite est telle que tout en voulant garder mon indépendance, mon boulot, je me dis, ah, si je pouvais faire un petit quelque chose. Donc, après tout, prendre ce leadership, c'était pas très engageant, honnêtement. Ça conduisait pas à la mairie de Paris, théoriquement. C'était juste essayer de faire vivre des idées progressistes dans cette ville, Paris, où elles avaient disparu et où Jacques Chirac et son équipe étaient devenus hégémoniques. Donc j'ai dit oui, je relève le défi, parce que j'ai aussi envie de militer, ça va trop mal, il faut que je donne quelque chose, quoi. Mais j'y ai pris goût.
Et puis en 1995, en juin 1995, vous conduisez les listes Paris s'éveille et vous remportez...
Avec l'autorisation de Jacques Dutronc. Parce que j'avais demandé quand même. Eh oui, Paris s'éveille. J'avais demandé l'autorisation par des intermédiaires. Je ne l'ai pas eu directement, il nous a donné autorisation.
Parce qu'il y a dans cette chanson, au-delà de son titre, des paroles qui...
Ah oui,
vous inspire.
D'abord parce que c'était l'enjeu politique, que Paris s'éveille, que Paris sorte quand même de cette espèce de domination hégémonique et qui induisait un certain conformisme dans les politiques mises en œuvre en matière d'urbanisme, de logement, etc., culturel aussi. Et donc c'était une envie de réveiller la vie démocratique aussi à Paris. Et la chanson elle-même, elle me plaît beaucoup parce que il y a un mélange. J'y faisais allusion quand on parlait de Montmartre. Il y a un mélange de cette nuit parisienne où vous avez les travailleurs, les fêtards. Paris la nuit, c'est une part de l'âme de Paris. Il faut se promener à Paris. La nuit, c'est beau. Et moi, quand je me suis mis à me lever à l'heure où j'aimais me coucher, je m'émerveillais sur... Je passais toujours devant le Notre-Dame. Et je m'émerveillais sur le ciel qui avait des reflets roses derrière Notre-Dame. Et je me disais, le lever du soleil sur Paris, c'est quand même magique, quoi. J'assume que d'entrée, j'ai voulu donner un certain état d'esprit à notre démarche. Il fallait qu'il y ait un sourire sur tout ça.
Alors, il y a ce sourire, cette volonté d'éveiller Paris, Bertrand Delanoë, mais dans la perspective des municipales de 2001, en 1999, vous publiez « Pour l'honneur de Paris », et là, on n'est pas dans le sourire, on est dans le combat. Vous dénoncez un système dévoyé, vous parliez de l'urbanisme, l'hégémonie de la voiture, vous dites... Vous dénoncez le clientélisme, les prébendes, la cooptation, l'opacité. Donc c'est Paris dévoyé, Paris déshonoré. Et quand il est question d'honneur, en particulier dans la vie politique française et parisienne, jadis ça se réglait sur le pré. Il y a quelque chose un peu du duel. Vous avez le goût du duel, d'une forme de combat et de violence politique ?
D'abord, il faut que je vous dise que l'idée a germé dans ma tête que je pourrais être éventuellement candidat à la mairie de Paris en 95 après les municipales. Parce qu'après la Bérézina était venu l'éveil et qu'on avait triplé nos sièges et pris 6 arrondissements là où Chirac prenait les 20 arrondissements. Donc je me suis dit, oula, mais peut-être que ce qui nous paraissait impossible depuis la commune, si on travaillait beaucoup, on aurait peut-être une chance sur 1 million et il faut la saisir. Et je me suis mis au travail. J'ai fermé mes entreprises. Je ne les ai même pas vendues, j'ai fermé. Et effectivement, on a travaillé beaucoup, on a beaucoup écouté les Parisiens, on a fait beaucoup de terrain, on a beaucoup écouté les corps intermédiaires. J'étais en passion d'entendre le cœur de Paris dans toute sa diversité. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut écrire ce que tu crois bon pour l'avenir de Paris. Et au cœur de tout, il y a d'abord la pratique démocratique, il y a eu quand même des faux électeurs, des emplois fictifs, des marchés plus ou moins nets. Bon, voilà, faut d'abord exploser tout ça et remettre de l'ordre. Et la notion d'honneur, je l'ai dit dans ce livre, elle me vient de mon père. Donc je vous ai dit que c'était pas un homme de gauche, hein. Mais c'était un homme d'honneur. Et il disait un truc que je trouvais un peu ridicule, il disait « ne salis pas ton nom ». Faut pas que tu aies honte. Et donc, ça, et ma mère aussi avait cet état d'esprit, c'est quelque chose, c'est un héritage culturel, moral, de mes parents de droite. Je précise quand même que ma mère a fini par voter à gauche, hein, à partir de 81. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un enjeu pour l'honneur de Paris, parce que Paris, c'est une ville magnifique, c'est une ville aimée, c'est une ville de valeurs, c'est une ville d'histoire, c'est une ville de principes. Et quelque part, on ne pouvait pas laisser la boue ternir l'image de Paris. Et donc, c'était pour moi extrêmement motivant que d'essayer de redonner, comme je disais, je me souviens à l'époque, les électeurs de droite, ils n'ont pas envie qu'on triche aux élections. Les électeurs de droite, ils n'ont pas envie qu'il y ait de faux électeurs. Ils ont envie que les choses soient transparentes, soient honnêtes. Et donc, je sentais qu'il y avait un enjeu qui dépassait de loin l'enjeu de l'idéal de gauche. Et je regrette pas, parce que, vous savez, maintenant j'ai quitté la mairie de Paris depuis 4 ans, je me balade beaucoup dans Paris, je prends le métro, je marche beaucoup, je parle beaucoup avec les Parisiens et de me parler. Et il n'y a pas, je vous le jure, depuis 4 ans, il n'y a pas un Parisien qui ne m'ait pas dit quelque chose qui ressemble à « on était bien ». Et j'ai jamais voté pour vous, je suis pas d'accord avec vous, mais j'étais en confiance. Vous savez, c'est fondamental pour la démocratie. La confiance des citoyens, y compris de ceux qui ne votent jamais pour vous. Mais et alors, ça, c'est une, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel et c'est sans doute une des raisons de mon bien-être d'aujourd'hui.
Mais alors, il y a la passion, il y a, les principes, il y a l'idéal qui vous ont guidé à la conquête de Paris. Mais comment on se prépare, même si ça se règle finalement démocratiquement, comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce que vous pratiquez, vous qui êtes sportif, des arts martiaux, le noble art, la boxe?
Non, non. Moi, je suis pas violent. Je suis pas violent et je déteste la violence, d'ailleurs. Je déteste la violence, y compris dans les rapports humains. Donc non, il faut être tonique, faut y aller. Hein. Je suis pas tendre hein, dans le combat politique. Mais vous n'avez pas besoin de blesser les gens. Je vais vous donner un exemple. Vous chercherez un mot désobligeant sur les personnes, Jacques Chirac ou Jean Tiberi. Jamais. J'ai dénoncé le système, j'ai dénoncé les pratiques. Et d'ailleurs, je crois avoir d'excellentes relations aujourd'hui. Avec Jacques Chirac, son épouse, sa fille, et j'ai croisé Jean-Xavier Tiberi récemment à des obsèques. J'ai pas eu l'impression que bon, et pourtant Dieu sait que alors, combattu, hein. Mais j'ai jamais trouvé indispensable, en plus de caractériser les gens et de les salir ou de les abaisser, ça apporte rien. Ça apporte rien. Je n'ai pas le goût de cela. Voilà. On l'a fait à mon égard. Bon, il a fallu que je me tanne un peu la peau, hein. J'étais pas aussi serein il y a 15 ans qu'aujourd'hui, hein. Parce que j'ai pris des coups, hein. J'ai pris des coups violents et durs et très très méchants. Mais bon, ça a plutôt sali ceux qui les ont portés.
Et à propos d'une arme qui était dans les mains de vos adversaires avant 2001, avant les municipales, vous choisissez de faire votre coming out, de révéler publiquement dans une émission justement intitulée Zone interdite sur M6 à la télévision votre homosexualité. Vous dites j'ai enlevé une arme à mes adversaires et d'aucuns considèrent qu'à ce moment-là, ce que vous avez surtout fait, c'est pris rendez-vous avec votre destin, avec votre liberté. Et donc j'aimerais que vous nous disiez dans quelle mesure ce coming out, cette révélation, était-elle nécessaire d'un point de vue stratégique, mais peut-être aussi pour vous-même, avec vous-même, pour parvenir à vous considérer comme un candidat et vous imaginer en maire de Paris?
Pardonnez-moi, mais c'est pas du tout ça. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas fait de coming out. M6 a fait une émission Zone interdite sur la visibilité des homosexuels. Et nous étions en plein débat sur le PACS, où un certain nombre de parlementaires disaient l'homosexualité, c'est comme la zoophilie, enfin, ils mélangeaient tout d'une manière abjecte. Moi, j'avais pas envie, hein. J'étais très bien dans ma vie. Je ne cachais pas, mais je n'affichais pas. Tout allait bien. Et je n'en ai surtout pas besoin pour ma fonction politique. Mais la question que je me suis posée à moi-même, elle a été longue et douloureuse. Est-ce que tu as le droit de dire non? Ah ben non, moi, je reste dans mon coin et je participe pas au combat. Et donc, j'ai pensé tout de suite à ceux qui étaient homosexuels et qui étaient isolés, qui étaient paumés, aux ados, aux gens mal à l'aise et peut-être malheureux avec leur identité personnelle. Et je dis, dans ce contexte-là, d'homophobie, tu ne peux pas dire non. Et je me souviens que j'ai demandé conseil, y compris à des amis homosexuels, ils m'ont dit surtout le fais pas. Et moi, j'étais persuadé, en disant oui à M6, à Zone interdite, j'étais persuadé que j'étais en train de flinguer ma candidature, je l'ai fait. Et ce que ça m'a apporté après, que je ne savais pas, c'est une forme, oui, de liberté vis-à-vis de moi-même. Parce que il y avait beaucoup de non-dits dans des relations, dans la famille, par exemple, ou avec des amis plus âgés, bon. Et le fait de passer du non-dit au dit m'a fait conquérir involontairement une liberté pour moi-même. Et vous savez, il y a un truc très important. 20 ans après, nous sommes 20 ans après, il y a des gens qui me disent, j'avais 14 ans, je vous ai vu, et vous ne savez pas comme vous m'avez donné de la force. Et donc, en fait, c'était un peu ce que je recherchais. C'était à mettre à l'aise. D'ailleurs, je vais terminer cette émission en disant, j'aimerais que tout le monde s'en fiche. Le droit à être soi-même, égaux et dans l'égalité, et pas avoir, vous savez, beaucoup plus tard, Monique Neymer a écrit Corydon citoyen à propos de Gide, et elle me l'a dédié. Et il y a eu un très bon papier dans Le Monde, sur le livre de Monique, disant finalement, les héros sont les Parisiens. Parce que ils n'ont pas jugé Delanoë sur son identité personnelle, ils l'ont jugé sur les couleurs de bus, sa politique de logement, et ils ont oublié quelque part d'intégrer dans leur jugement l'identité personnelle. Et c'est ça la victoire. Et ça, j'en suis très fier. Très très fier. Parce que les Parisiens, finalement, ils s'en foutaient. C'était pas le sujet. Et c'est là que vous apportez une petite contribution qui est modeste, mais qui est bonne pour la démocratie.
Dans la tête des Parisiens, il y avait pour chacune et pour chacun des pensées, des désirs, des projets différents quand ils choisissent de voter majoritairement pour vous en 2001. Venons-en à cette victoire, Bertrand Delanoë. En ce moment, il y a une très bonne série télé française qui s'appelle Baron Noir, qui s'inspire de la vie du Parti Socialiste et qui propose toutes sortes d'intrigues assez palpitantes. Et notamment, elle nous donne à voir ce qui se passe dans l'appareil et dans la tête des candidats, des adversaires, au moment des grands rendez-vous électoraux. Qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête, avant que vous ne connaissiez vraiment les résultats ou la tendance qui allait vous convaincre que vous étiez victorieux?
J'adore Paris, nous avions bossé beaucoup, ça a été collectif, ça a été créatif, c'était passionnant et plein de sincérité, et en même temps d'ambition, j'avais un orgueil pour Paris. Et le seul fait d'associer son nom à Paris, c'est extrêmement prétentieux. Et ça vous crée des devoirs extraordinaires. Mais personnellement, je me protège toujours des déconvenus. Donc j'avais tellement bien imaginé comment serait ma vie si je n'étais pas élu sénateur, quand j'avais 50 ans, machin, bon, sans trop de contraintes, etc., que j'ai presque été déçu. Mais je vous rassure, c'est une déception presque coquetterie. Parce que j'avais peur, je voulais pas jouer ma vie sur un résultat électoral. Je disais toujours à mes collaborateurs et à mes proches, il faut qu'on fasse tout ce qui dépend de nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Pour ce qui dépend de nous, c'est jamais assez bien. Mais une fois qu'on se dit, voilà, j'ai tout donné, soyez un peu humble et même fataliste, advienne que pourra.
Ça, c'est ce que vous disiez à vos collaborateurs, mais qu'est-ce que vous pensiez, vous, dans votre fort intérieur, dans ces moments indécis, on se retrouve vraiment face à soi-même.
Quand j'étais jeune, on n'en a pas parlé à propos de Rodez, mais j'ai joué au poker. Ben, ça m'a passé. Je ne joue ni au poker, ni à la roulette russe, et surtout pas avec les enjeux démocratiques.
Alors que Mendès jouait au poker.
Oui, mais vous voyez que les plus admirables, comme Pierre, Mendès France, peuvent avoir des côtés. De toute façon, c'est pas péché hein, de jouer au poker. Moi, j'ai joué quand j'étais jeune, c'était marrant. Hein. C'était de l'adrénaline. Mais avec la politique, jamais joué au poker. En revanche, je sais les risques, je sais les incertitudes. Et je trouve que c'est beau d'ailleurs, les incertitudes. Non, c'est la beauté de la démocratie. Et après, le peuple décide.
Et qu'est-ce que ça vous fait faire, l'adrénaline, ces poussées d'adrénaline, quand on est dans un moment clé d'une campagne politique?
Vous voulez que je vous dise, l'après-midi du deuxième tour des municipales de 2001, j'ai fait la sieste. Et j'ai dormi. Ça m'a étonné. Mais parce que j'avais la conscience tranquille. J'avais fait le boulot et advienne que pourra. Mais j'étais très content qu'on gagne. Hein.
Mais alors le soir du deuxième tour, c'est la victoire face à Philippe Séguin. Et il y a quelques images qui ont pu marquer les Parisiennes et les Parisiens, et d'ailleurs les Françaises et les Français. C'est notamment les Parisiens qui viennent avec leurs clés vous les présenter. Et puis il y a cette image aussi de vous, assez tôt dans la soirée, à l'arrière d'une voiture, pensif, un peu en retrait, peut-être déçu donc.
Non.
Qu'est-ce que vous gardez comme image, comme instantané, comme ça, de cette soirée-là? Est-ce qu'il y a une image qui vous reste?
D'abord de la gravité. Je me souviens que ce soir-là, Lionel, qui était Premier ministre, voulait venir à ma permanence.
Lionel Jospin.
Donc il a appelé toutes les demi-heures en disant « je viens quand ?» Je dis « non, j'ai pas fait ma déclaration ». Et il me dit, mais pourquoi tu ne la fais pas? Tu as gagné. Je dis, oui, mais je ne sais pas si j'ai 3 voix de majorité ou 15. Donc, ce n'est pas le même propos. Le premier propos que je dois tenir en tant que vainqueur, en tant que maire de Paris, je dois savoir la marge de manœuvre que j'ai. Et donc, du coup, Lionel n'a pu venir que assez tard à ma permanence. J'en avais envie de partager aussi, y compris pour les médias, quand même, cette victoire. La gravité l'a emporté. Mes amis m'ont beaucoup reproché de ne pas avoir fêté cette élection. Autant 81, quand j'étais élu député, alors je lui ai fêté 50 fois. Mais j'étais jeune et j'étais dans l'euphorie. Le 18 mars 2001, j'étais dans la gravité. Et je percevais déjà tout ce qu'il y avait sur mes épaules. J'étais déjà au boulot. Ce qui est vrai, c'est quand on allait ensemble, place de l'Hôtel de Ville, avec toute l'équipe, je me souviens, il y avait Anne Hidalgo d'un côté, Clémentine Autain de l'autre. D'ailleurs, je crois que l'une des deux s'est fait fracturer une côte tellement il y avait de pression de la foule. On était joyeux, on était très, 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 très heureux. En même temps, moi, j'étais pas grisé. Une émotion assez contenue, finalement, alors que je suis plutôt sensible, parce que déjà, il y avait le boulot, quoi.
Mais alors, il y avait le boulot, et puis on se dit qu'il y avait forcément quelque chose d'autre. Et en préparant notre entretien, Bertrand Delanoë, j'ai vu que il y avait un site internet qui avait fait votre thème astral et qui prouve que non seulement vous êtes en astrologie chinoise, vous êtes du signe du tigre de métal, mais en plus, votre thème astral a de nombreux points communs avec ceux de Paul Newman, de Frédéric Chopin, de Jane Fonda, de Claude François et de Ronald Reagan.
Ouais, bah c'est varié. Hein.
Alors, je vais pas vous demander ce que vous
mais
devez à chacun
vous en
d'eux.
Déduisez, je crois pas du tout
non, à l'astrologie. Non, je voulais savoir si les astres y étaient pour quelque chose dans votre victoire.
Bah non, qu'est-ce que vous voulez qu'ils y fassent Non.
Vous étiez pas
non,
dedans
Non, non.
Comme
non,
Mitterrand, non, De Gaulle ou
non, 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 non.
Ou François Ier
Non, 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 non. Non, non, je suis plus simple que ça. Non, non.
Aujourd'hui, vous dites, à propos de vos deux mandats de maire de Paris, puisque vous avez été réélu en 2008, confortablement, Bertrand Delanoë, vous dites, je crois avoir donné quelque chose.
Oh, j'ai donné mon énergie, mon enthousiasme, mon amour. Car je crois que les Parisiens, même quand ils n'étaient pas d'accord avec moi, ils comprenaient que je les aimais. Hein. D'ailleurs, on me caricaturait un peu. Les Parisiennes et les Parisiens, c'était devenu un peu de la novlangue, quoi. Bon. Oui, je crois que j'ai donné. Moi, je dis souvent que je n'ai rien fait de plus intelligent, de plus utile et de plus épanouissant personnellement que d'avoir été maire de Paris. J'espère que j'ai donné, mais je peux pas. C'est pas à moi de dire ce qui a été positif. Ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup reçu et que je vais vous dire la plus grande gratification que j'ai, c'est ce que je vous racontais de mon temps parisien d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que la gentillesse, le sourire, le respect des Parisiens, de tous bords, hein, c'est vraiment la récompense la plus énorme qu'on peut avoir. Et voilà, moi je sais dire merci. Contrairement à d'autres, je pense que dire merci, c'est pas se rabaisser, au contraire.
Alors il y a beaucoup d'amour que vous avez reçu et que vous avez donné, Bertrand Delanoë, mais il y a aussi de la haine. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on évoque cette nuit du 6 octobre 2002 où un homme vous poignarde dans l'Hôtel de Ville.
D'abord, c'est pas et de loin l'événement le plus important de mes 13 ans, je veux dire. Hein. Les incendies qu'il y a eu en rafale, là, hein, où il y avait des morts d'enfants, etc., c'est drôlement plus important que cet événement dont je suis très bien sorti. Bon, donc ça m'a pas traumatisé du tout. Je dis pas que c'est anodin. Ben voilà, c'est un mec un peu détraqué en plus, hein, qui aimait pas la démocratie et qui aimait pas les homosexuels. Bon, évidemment, là, j'étais une cible. Mais bon, voilà, si vous voulez, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens extrêmement bien, y compris parce que mes collaborateurs un peu affolés avaient juste oublié qu'il y avait un poste de sapeurs-pompiers de Paris dans l'Hôtel de Ville. Et je leur ai dit, vous pouvez peut-être commencer par les appeler eux. Bon, ensuite, j'ai eu très mal. Je sais. Ensuite, mon chef de cabinet, Loïc Rousseau, qui n'était pas de permanence ce soir-là, mais qui a été prévenu, a eu l'intelligence d'appeler tout de suite mon médecin, le professeur Jean-Charles Piette, qui a tout de suite mobilisé des gens de grande qualité à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, on m'a emmené là-bas. J'ai compris que j'étais en danger grave parce que le chirurgien m'a pris la main. Il m'a dit, ben, je vais ouvrir et on verra. Et donc là, j'ai compris. Mais je ne me suis pas affolé. Je ne me suis pas affolé, puis après, j'étais dans le cirage pendant longtemps. Hein. Bon, ce qui ne m'a pas empêché, en réanimation, de signer des parapheurs. Bon. Donc, voilà, vous savez, là, il se trouve que le miracle de quelques minutes et de quelques millimètres ont fait que ils m'ont réparé. Mais à quelques minutes près, ils n'avaient pas la possibilité de me réparer, parce qu'on l'a su après, la veine cave était touchée à deux endroits, donc dans ces cas-là, tout part, et voilà. Sauf que le temps, la chance, ont fait qu'ils m'ont réparé complètement. Et bah, on ne va pas ressasser ce truc-là, vous savez, j'en ai jamais rêvé, j'ai jamais eu d'angoisse, voilà.
Alors c'est un nouvel épisode presque anodin.
Vous savez, la violence, vous parliez de haine et de violence. La haine et la violence dont j'ai été victime avant même de devenir maire, par les concurrents, pas Séguin, hein, je vous dis tout de suite. Bon, parfois les concurrents de gauche. Hein. Et la haine et la violence que j'ai pu subir pendant mon mandat, par des attaques abjectes, calomniatrices, c'est beaucoup plus violent qu'un coup de couteau. Et moi, en tout cas, je suis ni un nostalgique, ni un aigri. Moi, je regarde devant, hein. J'ai pas envie de m'emmerder à me faire du mal parce que des gens ont voulu me faire du mal. Ou aujourd'hui encore, d'ailleurs. Ça arrive. Bon. Moi, je préfère être positif. Mais, je veux dire, cette violence-là est beaucoup plus destructrice et peut blesser beaucoup plus. Il faut se protéger, d'ailleurs, contre ça.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kenéen avec Bertrand Delanoë. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.